Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée au documentaire. Alors c'est rare qu'on parle des documentaires et c'est pourtant un genre que l'on affectionne particulièrement. Donc on va vous causer de plusieurs documentaires. On va vous parler de Satoshi Kon, l'illusionniste, de Pascal Alex Vincent, que nous avons rencontré donc pour un entretien passionnant, donc un documentaire sur le cinéma, et en l'occurrence sur un cinéaste, mais on va y revenir. On va aussi causer de deux autres documentaires qui tournent autour du cinéma. Eurocrime, The Italian Cop and Gangster Film That Ruled the 70s de Mike Malloy, le documentaire avec le titre le plus court du monde, hein, quand même, vous remarquerez, voilà. Alors on va l'appeler Eurocrime, beaucoup plus simple, qui est édité lui par The Ecstasy of Film. On va vous causer aussi de un documentaire assez particulier, Mise en scène with Arthur Penn, A Conversation, un documentaire d'Amir Naderi qui est paru chez Rimini. Vous connaissez ma passion pour Arthur Penn, voilà, donc je ne pouvais pas passer à côté de ce documentaire. Je vous en dirai un peu plus dans les minutes qui viennent. Et puis, on va passer à un documentaire qui est considéré par certains comme le plus grand, le modèle des films, des documentaires musicaux, Jazz on a Summer's Day de Bert Stern, qui sort chez Carlotta Film. Carlotta Film où sort aussi d'ailleurs Satoshi Kon, l'illusionniste. Donc on parlera de Jazz on Summer's Day. Et puis on va après bifurquer vers un documentaire d'actualité, hein, beaucoup plus sociétal évidemment, qui s'appelle L'État du Texas contre Melissa de Sabrina Van Tassel, qui est paru chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Sandrine Hiver, Lucie Mottier, Christophe Cosins et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer documentaire, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune s'affaire à être rédac-chef de la revue Prime Cut, disponible aux éditions The Ecstasy of Film, et puis également qui met au point son émission, parce qu'il a une émission à lui, il nous fait des infidélités à l'écoute du cinéma, qui est diffusée sur RCA. Salut Thomas.
Alors moi je ne rappe pas, je grogne, donc salut Damien, salut Gégé, et bien évidemment salut à toutes.
Nous allons débuter cette émission par quelques documentaires sur le cinéma. Alors en particulier un documentaire vraiment singulier qui s'appelle « Mise en scène with Arthur Penn, A Conversation », un documentaire de 2014 signé Amir Naderi. Amir Naderi qui est lui-même un réalisateur iranien, qui est passionné d'Arthur Penn, hein, et qui a décidé un jour de poser sa caméra devant Arthur Penn, tout simplement. Et de rencontrer à intervalles réguliers Arthur Penn pour causer de ses films, mais aussi de sa vie de grand cinéaste américain, et aussi de son point de vue sur l'histoire du cinéma, sur Orson Welles, Antonioni par exemple, sur certains des acteurs avec lesquels il a travaillé, mais aussi on découvre sa jeunesse, on découvre plein de choses. Amir Naderi a déclaré « J'ai toujours aimé le cinéma d'Arthur Penn, pour ma génération et moi il a été l'une des plus fortes influences du cinéma américain moderne. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises début 2005. Je n'ai jamais pensé à montrer ces images car elles me paraissent trop personnelles, jusqu'à ce que, après 9 ans, des amis italiens me poussent à le faire sans aucun montage. » Donc effectivement, c'est un film qui est sorti en fait, par une société italienne, qui est disponible d'ailleurs par chez un éditeur vidéo français dont le nom évoque l'Italie puisque c'est Rimini, voilà. C'est vraiment un dispositif, c'est-à-dire qu'on comprend que le réalisateur Amir Naderi ne souhaitait pas forcément sortir ce film officiellement puisque en gros, il plante sa caméra, c'est sans montage. Donc on le voit faire le point, on le voit déplacer des objets pour pas qu'il y ait d'objets qui gênent pendant qu'il filme. Et puis c'est une discussion. Donc il coupe la parole à Arthur Penn et tout. D'ailleurs, dans les bonus du double DVD, là, il s'excuse. Parce que c'est vrai qu'il lui coupe souvent la parole parce qu'il a envie de l'emmener sur des chemins, de discuter avec lui de choses. Ils se connaissent déjà, en fait. Parce qu'Arthur Penn aime bien ses films et il a projeté d'ailleurs un de ses films dans son cinéma parce qu'Arthur Penn a un cinéma. Donc c'est plus des copains qui se rencontrent. Et c'est évidemment que si on aime Arthur Penn, c'est passionnant. C'est passionnant. On découvre tout de son enfance. On découvre qu'Arthur Penn, par exemple, est quelqu'un qui a eu une enfance. C'est quelqu'un de très pauvre, en fait, dont le père a abandonné la mère. La mère faisait le ménage dans un hôpital et qui a été placé chez des gens dans différentes familles, dans différents coins des États-Unis. C'est assez rigolo parce qu'il évoque aussi ses premières. Pulsion érotique aussi avec les dames chez qui il logeait, dont une qui va inspirer un personnage féminin de Little Big Man, hein, parce qu'on rappelle qu'Arthur Penn, c'est Bonnie and Clyde, Little Big Man, Le Gaucher, plein de films extraordinaires. C'est quasiment que des chefs-d'œuvre ou alors des très bons films. Arthur Penn, c'est un immense metteur en scène dont on a très 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 souvent parlé dans l'émission parce que j'adore Arthur Penn. Et là, une fois qu'on accepte le dispositif, c'est-à-dire d'un type en face d'une caméra puis d'un autre qui discute avec lui et qui filme ça pour ses archives personnelles, hein, au départ il filme pas ça pour que ce soit montré spécialement. Après, on se laisse prendre. Par contre, je vous préviens, il faut avoir du temps devant vous puisqu'il y a 6 heures d'interview. Donc c'est le documentaire, certainement l'un des documentaires les plus longs, mais aussi du coup les plus passionnants pour ceux qui aiment les entretiens et les échanges comme ça, c'est vraiment passionnant. Donc je vous le conseille vivement, ça s'appelle « Mise en scène with Arthur Penn, a conversation », c'est un film d'Amir Naderi et c'est disponible chez nos amis de Rimini. Autre documentaire sur le cinéma. Et quel cinéma, les amis. Eurocrime, The Italian Cop and Gangster Film That Ruled the 70s. Et oui, on ne sort pas de l'Italie. Je suis très italien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un film de Mike Malloy, qui est une coproduction USA-Italie-France. C'est un documentaire de 2012, très réputé, mais qui n'était jamais arrivé jusque dans nos contrées. Et puis là, grâce à notre ami Christophe Cosins et à sa maison d'édition The Ecstasy of Film, il nous permet de voir ce documentaire qui réunit quand même une distribution des plus prestigieuses, puisqu'on y croise Franco Nero, John Saxon, Henri Silva, Antonio Sabato, Luc Merenda. Salut Luc, Fred Williamson, Richard Harrison, Christopher Mitchum, Enzo, Girolami Castellari, Leonard Mann, Joe D'Alessandro, Michael Forrest, Claudio Fragasso, John Steiner, Ottaviano Delacqua, Mario Caiano, Nicoletta Machiavelli, enfin bon bref, je m'arrête là, il y en a d'autres, et qui sont en fait interrogés sur ce fameux polidiesco, c'est-à-dire pendant 2 heures, on va revenir sur ce qu'est le polidiesco, ce genre de polar survitaminé qui se déroulait à la période des années de plomb, de la fin des années 60 au début des années 80, pendant la période dite de la stratégie de la tension, c'est-à-dire en gros, partons de l'attentat du 12 décembre 1969, l'attentat de la Piazza Fontana, perpétué par l'extrême droite à Milan, qui a fait 16 morts et 88 blessés. Et on va jusque le 2 août 1980, l'attentat toujours pratiqué par l'extrême droite, hein, de la gare de Bologne, qui est le plus meurtrier, puisqu'il a fait 85 morts et plus de 200 blessés. Voilà. Et tous ces polars qui sont tournés à cette époque vont rencontrer un immense succès en Italie. Et alors le genre, on dit toujours qu'il est lancé par Carlo Lizzani avec Bandit à Milan, avec Thomas Milian qui fait un flic violent. L'immense Thomas Milian. Alors Thomas Milian qui n'est pas dans le documentaire, je pense qu'ils n'avaient pas réussi à l'avoir au moment de faire le film, mais qui est dans les bonus parce qu'ils ont fini par réussir à le rencontrer. Et bien sûr Thomas Milian, tout le monde le sait, l'un des plus grands acteurs au monde de tous les temps, le génialissime cubain, qui même dans son document, même dans cette interview d'une vingtaine de minutes, ne peut s'empêcher d'en faire des tonnes. Il est absolument génial. Enfin, j'ai envie de dire, Thomas Milian est génial, c'est presque pléonasme. Bon, même si parfois Thomas Milian s'est un peu laissé aller dans certains rôles, où il a légèrement cabotiné. Alors, on y revient sur plein de films tels que Société Anonyme Anticrime, dont on a déjà parlé dans l'émission de Steno, Le Témoin à battre de Castellari, les films de Lenzi avec Maurizio Merli, Milan Calibre 9, L'Empire du Crime, enfin les films de Di Leo, Le Police Parallèle en Action de Martino, Le Revolver de Solima. Tous ces films, on vous en a déjà parlé dans l'émission. Alors, le documentaire, il est divisé dans, en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre qui est constitué aux origines cinématographiques du genre, alors qui reprend les différents filones, comme on dit en Italie, c'est-à-dire tous ces genres qui ont marché, peplum, western. Et à chaque fois, l'Italie les a récupérés et les a transformés, les a adaptés à la société italienne avec plus de monstration, de sadisme. Et d'ailleurs, le polar italien n'y coupe pas. C'est-à-dire qu'au départ, on va un peu pomper l'inspecteur Harry, on va un peu pomper tous les films qui cartonnent à l'époque. Sauf que au bout du compte, ça va avoir une identité typiquement italienne parce que vu le contexte, on va décider surtout de situer les films dans des villes particulières, beaucoup à Milan par exemple, ou à Rome. Et du coup, ça va avoir une accroche très particulière. D'ailleurs, dans le documentaire, c'est expliqué les films cartonnés, puisqu'à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne de télé en Italie. Les Italiens allaient en moyenne autour de 4 à 5 fois par semaine au cinéma. Ce qui coûtait pas très cher, le cinéma. Et puis, comme ça, ils voyaient plein de films. Sinon, ils ne voyaient pas de films. Donc, c'était vraiment important. Alors, on découvre plein de choses. Hein. On découvre qu'en fait, ces films, au départ pompés, deviennent typiquement italiens parce qu'ils traitent de problématiques italiennes. Malgré tout, ils se mettent même à attirer des acteurs américains qui viennent cachetonner, Ben Gazzara, Martin Balsam et tout ça, qui lui va faire une longue carrière en Italie. Le chapitre 2 revient sur les protagonistes et les méthodes avec les acteurs, une grosse partie sur Maurizio Merli, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui au départ a été pris uniquement pour sa ressemblance avec Franco Nero. Et John Saxon, dans le documentaire, nous révèle quand même que Merli, qui était un type très très particulier, parler de lui-même à la troisième personne. Donc tout va bien, Mauricio, tout va bien. Et Henry Silva et Fred Williamson nous révèlent que, durant cette partie, eux, ils adoraient venir tourner en Italie, parce que comme ça, c'était des trucs qu'ils déclaraient pas aux impôts. Alors attention, Wesley Snipes, ça lui a coûté cher, hein, ce genre de truc. Mais bon, il faut faire gaffe. Et puis surtout, ce qui est assez rigolo, il y a plusieurs acteurs qui le disent, Henry Silva, John Saxon, Sabato, Antonio Sabato. Ils disent qu'en fait, le plus méchant de tous les metteurs en scène, le plus méchant qui les engueulait tout le temps, qui était infect, c'était Umberto Lenzi. Voilà. Qui était horrible sur les plateaux. D'ailleurs, du coup, il y a des séquences animées qui parodient Umberto Lenzi qui sont assez drôles, même si Umberto Lenzi, quand même, ce qu'il a fait de mieux, il l'a fait dans le polar, je crois qu'on peut le dire. Alors le chapitre 3, action et violence redéfinie. Alors on revient sur la forme, hein, et puis surtout ce qu'il y avait quand même, dans les trucs qui reviennent par exemple dans ces polars, qui sont quand même, on voit que les Italiens quand même, ils font pas les choses à moitié. Donc, les douches d'urine, hein, qui revient, truc qui revient très fréquemment, où on torture les gens en leur faisant pipi dessus. L'émasculation, énormément d'émasculation, énormément de meurtres d'enfants aussi, voilà. Bon, et puis les cascades, on revient longuement sur les cascades. Par problème de budget et parce que les films se tournaient très vite, on découvre que les acteurs faisaient souvent eux-mêmes leurs propres cascades. Et bien d'ailleurs, même si Rémi Julien a beaucoup travaillé là-bas, Rémi Julien qui ne roulait pas vite, John Saxon nous révèle qu'il roulait très doucement en fait, parce qu'il avait peur des autres conducteurs quand il était sur l'autoroute. Et puis des fois, ils n'avaient pas le temps de mettre des balles à blanc, donc on voit un extrait de film où quelqu'un à la mitraillette tire juste à côté de John Saxon, c'est des vraies balles. Et dit John Saxon, il dit, moi j'avais demandé au mec, est-ce que tu vises bien? Il m'a fait, t'inquiète, je vise nickel. Il dit, heureusement, il a bien visé. Voilà. Donc ça en dit long sur l'ambiance. Et puis, il y a quand même Luc Méranda qui a fini avec 30% d'invalidité après une cascade, hein, qui pourtant est un sacré gaillard, un sacré cascadeur et tout ça, et qui a quand même fini par se blesser, quoi. Donc ça rigolait pas, quoi. Voilà. Et puis, après, il va y avoir un chapitre sur les villes en elles-mêmes, Naples, Sicile, le crime organisé. On découvre que certains, parfois, il fallait traiter avec la mafia, qu'il fallait composer avec eux, qu'il y a des vrais mafieux qui apparaissent des fois. Alors, ils te donnaient la protection pour venir tourner dans un endroit, mais après, il y en avait d'autres qui venaient tabasser ceux qui te protégeaient en disant « Ah, paye-moi plus cher et moi, je te protégerai des autres ». Enfin bon, bref, c'était des trucs assez compliqués. Ils nous racontent tout ça. Et on découvre dans le documentaire que Nick Jordan, qui était acteur dans pas mal de ses films, qui s'appelait pas Nick Jordan en vrai, mais enfin bon, qui s'appelait Nick Jordan, c'était son pseudo, était un vrai mafieux, lui qui interprétait les mafieux, et qui d'ailleurs finira par mourir d'une balle en pleine tête. Voilà, donc ambiance. Il y a le chapitre 5 sur terrorisme et politique du réel. Alors ça, je n'ai pas besoin de vous rappeler, puisque je vous en ai parlé en introduction, hein, des années de plomb et du contexte. Et puis le chapitre 6, avec les mafiosi envahissent l'Amérique, dans lequel on rétablit certaines vérités, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, on a beaucoup dit que ces films-là avaient bien marché aux États-Unis. C'est pas vraiment vrai, ça a surtout marché dans les circuits parallèles, dans les petites salles. Et enfin, on termine par le déclin, ce septième chapitre, sur le renouveau et l'héritage de ce genre. Donc vous l'avez compris, le documentaire est hyper, hyper, hyper complet. Dans les bonus, il y a des scènes coupées. En plus de l'interview de Thomas Millian, des scènes coupées du documentaire, et puis également une intervention de Jean-Baptiste Torres sur le polar italien qui est assez passionnante. On va terminer ce petit tour des documentaires sur le cinéma avec Satoshi Kon, l'illusionniste, qui est sorti en édition Prestige Limitée chez Carlotta Film. Donc un documentaire consacré à ce cinéaste génial, mangaka et réalisateur de films d'animation, qui était Satoshi Kon, qui est mort beaucoup trop jeune à 46 ans d'un cancer foudroyant. L'homme derrière Perfect Blue, Millennium Actress, Paprika, la série extraordinaire Paranoia Agent, parmi ce qui s'est produit de mieux au Japon, moi j'ai pas peur de le dire, c'est mon mangaka préféré, hein, parce que ça a aussi été un mangaka version papier passionnant. Voilà, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on joigne Pascal Alex Vincent, qui est le réalisateur de ce film, donc Satoshi Kon Illusionniste, sorti chez Carlotta Film. Donc tout de suite, Pascal Alex Vincent au micro de Culture Prohibée. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour aborder Satoshi Kon, l'illusionniste, qui est un documentaire qui est paru en édition Prestige Limitée, donc chez Carlotta Film. Un documentaire consacré à Satoshi Kon, hein, qui est
une véritable légende, en tout cas pour ceux qui aiment Satoshi Kon, j'en fais partie. Mais aussi, c'est un documentaire qui a eu les honneurs d'être sélectionné à Cannes Classics en 2021. Je suppose que c'était pour toi très important le fait d'être sélectionné à Cannes Classics.
Cette sélection, évidemment, était très importante, mais en fait, surtout pour l'entourage de Satoshi Kon, c'est-à-dire sa famille et ses producteurs. Parce qu'il faut vraiment comprendre que, déjà, il n'y a pas vraiment d'histoire entre le Festival de Cannes et l'animation japonaise, curieusement d'ailleurs, parce que l'animation japonaise, c'est tellement important depuis l'après-guerre que, voilà, mais le Festival de Cannes n'a pas vraiment d'histoire avec ça. Et donc, le fait que cette année, il y ait eu en sélection officielle à la fois Belle de Mamoru Hosoda et mon documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste, ça a été une façon de mettre le pied dans la porte du festival, d'une part, et puis bien sûr, c'était pour Satoshi Kon, c'était important pour sa famille et ses producteurs de qu'on puisse voir des images de Satoshi Kon à Cannes dans le grand palais des festivals. Ça n'était jamais arrivé, et donc c'est une sorte de consécration, et finalement, donc pas pour moi, mais vraiment pour Satoshi Kon. Et je suis très heureux de d'y avoir contribué.
Alors, Satoshi Kon est mort à 46 ans, hein, en 2010, très jeune. C'est vraiment une grande perte, hein, pour le cinéma. Est-ce que tu peux nous le présenter pour celles et ceux qui encore ne le connaîtraient pas ?
Alors, Satoshi Kon, c'est un artiste d'origine japonaise qui a d'abord été mangaka, c'est-à-dire qu'il a d'abord fait des BD, des mangas, donc voilà, il se destinait à ça d'ailleurs, hein. C'était quelqu'un qui voulait faire du manga et il en a fait avec succès, hein. Je rappelle que son premier manga long qui s'appelle Le Pacte de la Mer a été édité dans les années 90 directement par Casterman, l'éditeur de Tintin, donc c'est pour vous dire à quel point il était bon. Et donc c'est avant tout un mangaka que le cinéma est venu chercher, c'est-à-dire qu'il ne se destinait pas à faire du cinéma, mais le studio Madhouse a repéré l'immense talent de cet auteur de BD et est allé le chercher à la fin des années 90 pour tourner un film de série B, un film d'animation de série B qui s'appelle Perfect Blue. Et donc ça a poussé Satoshi Kon à abandonner le manga, la BD, pour se consacrer pleinement au cinéma. Et voilà, donc on peut considérer qu'il y a eu deux Satoshi Kon. D'abord le mangaka, avec une poignée de BD absolument remarquables. Et puis ensuite, des longs métrages et une série, jusqu'à sa disparition brutale et inattendue, très jeune, donc en 2010.
Alors tu l'as rappelé, hein, il débute, enfin il est découvert en tout cas par beaucoup, moi je l'ai découvert par Perfect Blue, hein, qui était une sorte de giallo un peu qui mettait en scène ce qu'on appelle des idols, film où il y a déjà plusieurs réalités qui se croisent, hein, c'est l'une des grandes thématiques c'est dans tous les films qu'il a fait, il y a cette idée de monde qui se croise, de se battre un peu avec la logique. C'est pourtant un film qui n'a pas spécialement bien marché, on le découvre dans le documentaire, et qui normalement aurait dû un peu condamner Satoshi Kon à ne plus œuvrer pour le grand écran.
C'est un peu le drame, voire la malédiction de Satoshi Kon, c'est que en décidant de faire de l'animation pour adultes, ce qui est un genre assez peu illustré dans l'histoire du cinéma, en décidant de faire de l'animation pour adultes, il se condamne à avoir un public plutôt restreint, parce que l'animation, dans son ADN, est plutôt destinée à un public d'enfants. Mais Satoshi Kon décide de faire de l'animation pour adultes, mais c'était le credo des studios Madhouse, hein, qui ont été fondés au début des années 1970, qui ont décidé de faire de l'animation petit 1 pour adultes et petit 2 de l'animation d'auteur. Et donc Satoshi Kon a fait tous ses films chez Madhouse et dans l'esprit maison, hein, donc de l'animation d'auteur pour adultes, mais voilà, ça n'a jamais marché du tonnerre. Mais néanmoins, ce qui a permis à Satoshi Kon de persévérer, c'est que s'il n'a pas vraiment rencontré le public à l'époque, en tout cas, il a rencontré la critique. C'est-à-dire qu'il a tout de suite été envisagé comme un auteur majeur, hein, dès son premier film. Si on voit la presse française de l'époque, hein, et si on voit les médias pas forcément consacrés à l'animation, on se rend compte que tout le monde le désigne d'office comme un auteur. Voilà. Et donc, c'est c'est une des caractéristiques de l'œuvre de Cohn, c'est qu'il n'a pas eu le succès réellement public, mais il a eu le succès critique, ce qui est aussi évidemment très important, et c'est ce qui lui a permis d'avoir la carrière qu'il a eue.
Il y a une particularité dans ses films, hein, c'est que dans ses films, même dans sa série d'animation Paranoia Agent, hein, c'est que on voit ou Millennium Actress, enfin, on va reparler de façon un peu de tous ses films, mais on voit souvent on est le spectateur lambda pourrait être un peu perdu par différentes réalités qui se croisent, un petit côté onirique aussi, voilà. Et je trouve que c'est quelque chose que toi tu as essayé de retrouver dans ton documentaire en faisant un peu cohabiter des images du réel que tu as capté. Je pense à cette japonaise dans le métro qui va enchaîner sur un plan de Perfect Blue ou à ces clochards qui vont évoquer ceux de Tokyo Godfather. Est-ce que ça se construisait très clairement pour toi quand tu filmais ou est-ce que ce sont des instants saisis et ton film s'est construit en fait au montage ?
Ça s'est préparé en fait, hein. Et même la jeune japonaise dans le métro, c'est quelqu'un qui a été engagé pour ce plan. Je serais pas autorisé à la filmer à son insu. Et du coup, il y avait comme ça cette envie de faire des clins d'œil à l'œuvre de Cohn, mais je voulais pas non plus faire le malin, c'est-à-dire je voulais pas faire un film de metteur en scène, je voulais pas faire un film de petit malin, je voulais vraiment faire un film accessible à tous, un film facile, un film fluide, et donc pour ça il me fallait être le plus discret, donc je me suis dit bon, ne faisons point trop d'effets de mise en scène, cachons-nous derrière l'œuvre très impressionnante, bien que très courte, de Satoshi Kon, et voilà, et donc l'idée était quand même que ce film soit une sorte de, j'ouvre les guillemets, Satoshi Kon pour débutants. Voilà, et donc pour ça, il fallait que la structure du film soit très claire et que, voilà, je ne m'amuse pas à faire des effets de que je ne joue pas moi-même à mon auteur, on va dire. Donc, voilà, mais c'est vrai que j'ai placé ces petits clins d'œil ici et là, voilà, comme on peut saupoudrer avec des épices un plat, très simple, et voilà.
Ce documentaire représente, moi j'ai l'impression, un énorme travail parce qu'il y a une somme d'intervenants que tu es allé chercher un peu aussi dans tous les coins du monde, hein. Alors, il y en a certains qui sont connus, j'en cite que quelques-uns, hein, comme Marc Caro, Mamoru Hosada, Mamoru Oshii, Darren Aronofsky, Jérémy Clapin aussi, bon celui-là il est moins loin, il est français, et puis d'autres moins, je pense au cofondateur du studio Madhouse, Masao Maruyama, à certains scénaristes et à une animatrice aussi, Aya Suzuki, qui elle, je trouve, est une des intervenantes les plus intéressantes. C'est une mine d'informations, cette dame.
Alors, Aya Suzuki, c'est évident qu'elle va devenir une star. Hein. Quand elle va passer à la réalisation, ce qui ne saurait tarder, elle va devenir une énorme star qu'elle est déjà, puisqu'elle a travaillé chez Ghibli, puis après chez Madhouse pour Satoshi Kon. Elle a fait un film en France avec Sylvain Chaumet. Là, elle est chez Disney. Et là, récemment, elle avait fait le Tom et Jerry qui est sorti il y a quelques mois. Et donc, c'est une animatrice, hein, une chef animatrice, voilà, qui a l'avantage de parler un anglais extrêmement fluide. Ce qui évidemment lui vaut la carrière qu'elle a. Et donc ça faisait partie des gens que je voulais vraiment interviewer parce qu'elle était un des derniers témoins de Dreaming Machine, le film inachevé de Satoshi Kon, hein, qui se tournait quand Satoshi Kon est décédé. Et donc elle faisait partie des gens que je voulais interviewer, mais j'avais fait à l'origine trois listes de personnalités. C'est-à-dire que la première liste était la liste japonaise, c'est-à-dire d'amis ou de connaissances ou de collaborateurs, comme cette Aya Suzuki, de collaborateurs ou collaboratrices de Satoshi Kon. La deuxième liste, c'était des commentateurs étrangers, c'est-à-dire soit des critiques, soit des universitaires. Et la troisième liste, c'était des cinéastes étrangers, possiblement influencés par l'œuvre de Satoshi Kon, comme Rodney Rothman, le co-réalisateur de Spider-Man New Generation, ou en effet Darren Aronofsky, ou bien sûr Jérémy Clapin. Donc voilà, j'avais fait ces trois listes-là, et je suis allé interviewer ces gens, en effet, à Londres, à Los Angeles, à New York, à Paris et bien sûr, évidemment, à Tokyo. Voilà.
Oui, donc c'est quand même un documentaire avec un budget assez conséquent malgré tout, et où tu as beaucoup voyagé, quoi. Voilà.
Oui, le film est une production japonaise. C'est un projet japonais avec sur la post-production une intervention de Carlotta Film, le célèbre distributeur-producteur. Voilà, et donc oui, il faut savoir que ce documentaire est produit par les mêmes personnes qui ont produit l'œuvre de Satoshi Kon, c'est-à-dire Masao Maruyama et Taro Maki. Taro Maki, c'est le producteur que j'ai interviewé dans un taxi, qui est le producteur de Millennium Actress. Et voilà, et donc ce sont eux qui ont produit ce film. Donc le film, c'est vrai, a bénéficié d'un budget confortable, mais le film n'a été possible que parce qu'il était produit par les producteurs de Kon. Donc c'est très très difficile d'ouvrir les tiroirs, de faire ouvrir les tiroirs au Japon. Donc il fallait vraiment montrer patte blanche plutôt deux fois qu'une. Et donc si j'ai pu obtenir tous ces noms japonais prestigieux, c'est parce que il y avait les producteurs de Satoshi Kon eux-mêmes qui étaient aux commandes de ce projet qui m'a été demandé. Hein. C'était une commande, hein, ce projet.
Vous écoutez Pascal Alex Vincent, réalisateur de Satoshi Kon l'illusionniste, documentaire disponible chez Carlotta Film.
Quelle place tient dans l'histoire du cinéma japonais Satoshi Kon ? Parce qu'il est un peu à part, comme il est dans l'animation, tout ça. Mais malgré tout, aujourd'hui, il est considéré, en tout cas par la critique, par l'un des très importants cinéastes japonais de ces dernières années.
Oui, c'est indéniable. Moi, j'enseigne à l'université. C'est un cinéaste et un mangaka très, très identifié des jeunes générations, en tout cas en France, puisque au Japon, son nom s'est un peu évaporé. Hein. Si vous allez dans un lieu de cinéma au Japon, une salle de cinéma, un magasin, une médiathèque ou que sais-je, si votre interlocuteur ou votre interlocutrice a entre 18 et 30 ans et que vous lui parlez de Satoshi Kon, il y a peu de chances que cette personne sache qui c'est, hein, au Japon. Donc voilà, il y avait comme ça, à l'occasion des 10 ans de sa mort, puisqu'il nous a quittés en 2010, il y avait cette volonté de ses producteurs et un peu de sa famille de faire un documentaire anniversaire afin qu'on se souvienne qu'il y a eu un grand artiste japonais dont l'œuvre est extrêmement courte mais qui est absolument essentielle et qui s'appelle Satoshi Kon. Mais voilà, c'est peut-être maintenant, rétrospectivement, qu'on se rend compte de son importance, hein, et de son héritage qui est absolument essentiel. Voilà, et il y avait voilà, cette volonté de dire ça dans un documentaire.
On découvre aussi des choses dans ce documentaire, hein. Par exemple, tout à l'heure a été abordé Taro Maki. Taro Maki, qui a parfois eu des relations tendues avec Satoshi Kon. Satoshi Kon pouvait avoir un sacré caractère lorsqu'il s'agissait de défendre son travail, son point de vue.
Oui, ça a été la grande surprise, la grande mauvaise surprise même en faisant ce documentaire, c'est que je me suis rendu compte que Satoshi Kon n'avait pas laissé que de bons souvenirs. Et j'ai découvert dès le premier entretien qu'on a fait, c'était Mamoru Oshii, le réalisateur de Ghost in the Shell. Et les producteurs m'avaient dit, tu vas avoir attention, il est un peu bougon, il dit souvent beaucoup de mal des gens, ne te laisse pas impressionner, etc. Et en effet, ça a été une interview assez longue où il a dit beaucoup de choses désagréables à propos de Satoshi Kon. Et je lui ai dit, tiens, bon, bah, ça doit être spécifique à l'expérience de Mamoru Oshii, mais en fait à peu près toutes les personnes interviewées, enfin, sauf les comédiens, parce que les comédiens ils savent très bien faire ce genre de choses en souriant tout le temps, mais les autres voilà, m'ont dit beaucoup de mal de Satoshi Kon. D'ailleurs même l'ami de toujours, Mamoru Ozoda, hein, qui était un vieil ami de Satoshi Kon, au bout d'une heure d'entretien, je lui dis, mais c'est super, vous ne m'avez pas dit du mal de lui, vous êtes bien le premier, bien m'attendez, si vous voulez, hein, je peux, hein, voilà. Ouais, je peux commencer. Hein, donc voilà, donc il semblerait que Satoshi Kon avait un caractère extrêmement difficile, c'est que je pense qu'il avait une très très haute ambition, une très haute vision de son métier, par extension une très haute vision de lui-même, et qu'il attendait beaucoup beaucoup de ses collaborateurs jusqu'à les épuiser. Et donc, voilà, il y avait souvent des moments orageux entre Cohn et son entourage.
Oui, parce qu'il est tellement doux quand on le peu d'images d'entretien que l'on a et tout, il est tellement doux et souriant. Mais effectivement, c'est pas étonnant puisque c'est un créateur assez dément, donc évidemment qu'il ait des, comment dire, un caractère en acier trempé. Ça, c'est assez logique en fin de compte. Voilà, surtout dans une industrie aussi calibrée que celle de l'animation et dans laquelle il avait quand même une place à part. On en parlait il y a quelques minutes, il y a son dernier projet, Dreaming Machine, où semble-t-il, malgré le titre du film, il voulait un peu s'affranchir de ses thématiques habituelles et se diriger vers un film plus familial. Alors on peut voir quelques bribes de Dreaming Machine par le biais de dessins, et aussi en écoutant des échanges, en particulier avec l'animatrice dont on parlait tout à l'heure. Mais il paraîtrait qu'il existerait un petit montage de Dreaming Machine qui serait possible de voir.
En fait, en vérité, les 26 premières minutes de Dreaming Machine sont tournées. Elles existent, elles sont tournées colorisées. Il y a même une chanson de Susumu Hirasawa, le célèbre compositeur des musiques de Satoshi Kon, qui est dedans. Elles ne sont pas, par contre, sonorisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les voix, mais ces 26 minutes sont tournées. Vu que le film se tournait dans la chronologie, ce sont les 26 premières minutes du film. Et donc voilà, ces 26 minutes existent, mais elles sont l'objet d'un embruglio très complexe, hein, entre Madhouse, la veuve de Satoshi Kon, et Masao Maruyama, chacun ayant des ambitions différentes vis-à-vis de ce projet. Et donc voilà, ça a déjà été une très 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 longue et très douloureuse négociation de montrer quelques images fixes dans mon documentaire. Mais ces 26 premières minutes existent. Alors je les ai vues bien sûr, mais j'ai pas eu le droit de les utiliser tant que la bagarre entre ces trois entités ne sera pas réglée, mais je crains que ça prenne des années.
Si on fait le tour de la filmographie de Satoshi Kon, il y a Perfect Blue, il y a Millennium Actress avec ce travail sur le cinéma, il y a Tokyo Godfather, hein, qui est un film qui met en scène des parias, des clochards qui recueillent un bébé, hein, d'ailleurs un peu comme dans Le Fils du désert de John Ford, ce qui est d'ailleurs abordé dans le documentaire. Il y a aussi Paprika, hein, et puis il y a cette série Paranoia Agent que moi je trouve assez génial. Toi, qu'est-ce que tu retiendrais? Est-ce que tu as un petit fait pour un de ces films ou vraiment c'est pas possible? Tu aimes tout Satoshi Kon?
Mon œuvre préférée dans l'œuvre de Satoshi Kon, c'est pas forcément la plus connue, c'est Paranoia Agent, qui est sa série, la série qu'il a tournée avant Paprika. C'est une série assez courte, hein, 13 épisodes de 26 minutes. C'est une série policière et elle est inspirée, m'a dit l'entourage de Satoshi Kon, elle est inspirée de Twin Peaks, la célèbre série mystérieuse de David Lynch. Et donc Satoshi Kon a eu envie de faire son Twin Peaks à lui, avec là aussi une enquête. Alors sauf que là, bon, contrairement à Twin Peaks, là ça se passe en milieu hyper urbain, hein. Ce qui caractérise Paranoia Agent, c'est que chaque épisode a sa direction esthétique différente. C'est Satoshi Kon qui dirige, mais c'est pas forcément lui qui réalise chaque épisode, même s'il en a tourné directement certains, mais pas tous. Mais c'est lui qui est un peu le chef d'orchestre de cette série assez folle, qui est un enchantement. D'une part parce que chaque épisode, donc encore une fois, est différent, même si les personnages sont les mêmes, mais voilà, une esthétique différente, et aussi parce que c'est une série, mais en fait comme toute l'œuvre de Satoshi Kon, une série assez visionnaire qui nous raconte déjà les années 2020. Voilà, c'est une série avec des personnages totalement aliénés à leur téléphone portable, des personnages aux prises avec leur double virtuel sur Internet, leurs avatars d'Internet, des personnages tous emprunts, des psychoses collectives, de choses qui n'existent pas forcément. Voilà, et donc en ça, Satoshi Kon avec Paranoia Agent, cette fabuleuse série du début des années 2000, voilà, était vraiment un visionnaire et de manière générale, l'œuvre de Satoshi Kon est totalement visionnaire.
Vous écoutez Culture Prohibée. Après le cinéma, la musique avec Jazz on a Summer's Day de Bert Stern. Bert Stern, grand reporter, grand photographe de mode, à qui on a confié la mission d'aller filmer un festival de jazz à Newport. Et mon cher Damien, je crois que ce film, t'a parlé, quoi.
Quelle douce musique qu'est le jazz. Donc Jazz on a Summer's Day ou Jazz à Newport dans sa version française et comme tu l'as dit réalisé par Bert Stern qui a été fait en 1959. C'est un film concert qui suit le festival de jazz de Newport. Il est considéré comme un des premiers films concert. On retrouve au montage Aram Avakian qui a pas mal bourlingué en tant que monteur et toi qui parlais notamment de Arthur Penn, il a été le monteur de Mikey Wan. Il a également travaillé pour Francis Ford Coppola sur Big Boy. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la musique qui prend énormément de place dans le film, ce qui est logique. On a une voix off qui est très peu présente, extrêmement limitée, qui est surtout là pour annoncer les musiciens, les musiciennes et les chanteurs et les chanteuses. Tout cela est logique et ne pose pas de problème parce qu'on parle de jazz qui est pour moi une musique qui en soi communique à travers ses rythmes, ses ruptures ou encore ses croches. C'est un langage bien romantique à mes oreilles quand elle ne réveille pas les démons dans mes jambes avec ses voix électrisantes. Parmi les nombreuses stars qui passent, ou plutôt les prestations qui ont été filmées, j'ai beaucoup apprécié celle de Louis Armstrong ou encore de Dinah Washington et surtout Anita O'Day qui a le meilleur dialogue de jeu entre les musiciens et le public car l'un des choix de réalisation qui est fait dans les films c'est justement d'entrecouper les scènes de concert avec finalement la vie à Newport, que ce soit les images du public qui vient assister ou bien chanter en même temps que les chanteurs ou encore la compétition de voile qui a eu lieu à Newport qui est entrecoupée, ce qui fait qu'au final la musique vient également accompagner ces moments de vie. C'est un film très agréable qui ressemble bien évidemment à un concert et que je conseille quand on aime le jazz et voyager.
J'ajouterais, en plus que dans la forme, c'est un film assez ambitieux. Alors, je suis d'accord, Anita O'Day, c'est la performance. Elle pourrait apprendre à faire du raga à pas mal de mecs qui font du raga aujourd'hui, à pas mal de toasters, comme on dit. Hein. Elle a un débit. Alors, Anita O'Day, c'était la jazz woman préférée de ciné. Il considérait que c'est la plus grande chanteuse de jazz qui ait jamais eu. Et qui était quand même une sacrée nénette. Parce que elle, c'est une sorte d'Amy Winehouse qui n'est pas morte, en fait. Qui a survécu à tous ses excès. Et c'est un sacré numéro. Et c'est vrai que c'est une sacrée chanteuse. Et c'est une sacrée performance qu'elle livre. Mais moi, ce que j'aime bien, en plus, c'est que dans ce film, alors, frère Louis Armstrong, il est génialissime, hein, d'ailleurs. Et il est à l'origine de nombreux moments de mise en scène, parce qu'il y a vraiment de la mise en scène. Le réalisateur utilise une fanfare pour faire le lien entre les séquences. Et il y a de la mise en scène quasiment tout le temps. Dès le début, on a les notes de jazz qui arrivent. Et il filme les reflets des bateaux dans l'eau et les reflets du ciel dans l'eau. Et l'eau ondule au rythme des notes. Je trouve ça génial. Enfin, déjà, c'est une idée de mise en scène dès le début du film qui est géniale. Et il y a plein d'idées de mise en scène tout le long. Il y a des moments cocasses. On voit le public qui s'ennuie, le public tout à coup qui se réveille. Et puis, sur Louis Armstrong, il y a le moment orgasmique. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui jette un regard coquin à son compagnon et puis qui se met à rentrer en transe en même temps que les notes de Louis Armstrong prennent en rythme et prennent...
vraiment un fabuleux showman. Hein. Et c'est assez gonflé, je trouve, comme séquence. Il y a plein de séquences comme ça, très gonflées. C'est vraiment... on comprend pourquoi, pour Paul Thomas Anderson, qui est quand même pas un... qui est quand même pas un petit joueur au niveau du maniement de la caméra, c'est la référence du film musical. Effectivement, on vous le conseille vivement.
I love the looks of you, the lure of you, the sweet of you, the pure of you, the eyes, the arms, the mouth of you, the east, west, north, and the south of you. I love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me too. I love all of you. I love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me too. For I love all of you.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial documentaire.
My name is Melissa Elizabeth Lucio. I'm 48 years old. I have 14 children. I've been on death row 11 years.
Cinéma, musique, Emmanuel Noumont, qui est un documentaire plus sociétal. Hein, et là, on va taper dans le mille avec ce film, donc L'État du Texas contre Melissa, qui est un film de Sabrina Van Tassel, qui est paru chez Blackout, qui est un documentaire qui s'attache à travailler sur une affaire en particulier qui concerne une certaine Melissa Lucio, qui est condamnée à mort, qui attend toujours aujourd'hui hein, son exécution. Sabrina Van Tassel a récemment écrit à Emmanuel Macron en janvier de cette année 2022 pour qu'il intervienne afin qu'elle ne soit pas exécutée. Elle a écrit à Emmanuel Macron qui, pour l'instant, semble-t-il, n'a pas réagi. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Et en même temps, le contexte fait que voilà, il a peut-être d'autres chats à fouetter. Mais en tout cas, elle a été touchée par cette histoire. Sabrina Van Tassel, dont on découvre, elle est franco-américaine, je crois, hein, Sabrina Van Tassel, dont on découvre dans les bonus d'ailleurs, que, alors après une courte carrière d'actrice, elle a fait des. Qui devait surtout, je pense, se servir à lui payer ses études. Elle a très vite bifurqué dans la réalisation de documentaires. Et on découvre dans les bonus que c'est en travaillant sur un documentaire consacré à des femmes en prison qu'elle a rencontré Melissa Lucio parmi d'autres femmes et que le courant était au départ très mal passé. Qu'elle pensait même pas l'intégrer dans le documentaire. Et puis petit à petit, en découvrant son affaire, elle s'est prise de passion pour cette femme, donc accusée du meurtre d'un de ses enfants. Elle a eu 14 enfants, cette femme, d'un de ses enfants, d'une petite fille, de 2 ans, je crois, enfin toute petite, hein, Maria. Et donc accusée, et on découvre dans ce documentaire que évidemment, pauvre, toxicomane, d'origine mexicaine. Elle a, en tout cas, pas eu le droit à la défense à laquelle elle aurait dû avoir droit. Et elle n'a pas été très bien épaulée, aiguillée dans cette affaire. Elle a été désignée coupable d'entrée de jeu. Voilà. Et c'est un documentaire passionnant parce que dans les bonus présents sur le DVD, Sabrina Van Tassel, elle nous explique qu'elle est convaincue de son innocence. Voilà. Sauf que quand on regarde le documentaire, où moi je mettrais juste un seul bémol, c'est l'utilisation de musique parfois. J'aurais préféré voilà, qu'il y ait moins de musique pour pas nous dire ce qu'on doit penser, en fait, pas impulser nos émotions. Mais sinon, le documentaire est quand même vache. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire, c'est que Sabrina Van Tassel, au lieu de nous asséner, c'est nous asséner son point de vue, interroge tous les tous les, comment dire, tous les acteurs et les témoins de cette affaire, tous, sans exception, c'est-à-dire aussi bien l'accusée elle-même, Melissa Luccio, que ça, ses enfants, qui donc après ont été placés dans plein de familles, tout ça, enfin bon, voilà, ses enfants, sa mère, enfin sa famille, à Melissa Luccio, mais aussi son avocat commis d'office à l'époque. On revient sur le parcours du procureur qui l'a fait condamner, quand même, un type qui a fini en taule, hein, quand même. Hein. C'est un drôle de type qui faisait de la magouille avec la mafia mexicaine, avec les narcotrafiquants. Et disons que l'affaire de Melissa Luccio est tombée à pile au moment où il devait se faire réélire. Et jamais dans le documentaire, elle pose quasiment les mêmes questions à tous les intervenants. Jamais dans le documentaire, elle nous dit « pensez comme moi ». Elle nous laisse nous faire notre propre cheminement. Ce qui fait que moi, je peux le dire, en tant que spectateur, moi, je ne sais pas si Melissa Luccio est innocente. Au sortir du documentaire, je ne peux pas le dire. Par contre, je suis sûr qu'elle a été accusée d'entrée de jeu, qu'elle n'a pas du tout bénéficié de la moindre défense digne de ce nom, et qu'on l'a mise dans le couloir de la mort sans lui permettre de se défendre et sans lui permettre de pouvoir prouver son innocence. Voilà. Donc, c'est quand même des choses troublantes qu'on découvre dans le documentaire, en particulier qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est accusé du crime. Donc, voilà. Donc, c'est quand même des choses particulièrement troublantes. Et je trouve que le documentaire, de ce point de vue-là, par contre, est très réussi.
Moi, je suis comme toi. J'ai les mêmes bémols par rapport au film, au niveau de la réalisation. C'est cette musique qui est, à mon avis, un peu trop sensationnaliste et qui est complètement inutile. Le film aurait mérité à être un peu plus sec que ça. Et, par contre, moi, je suis, contrairement à toi, moi je suis convaincu de son innocence. Parce que déjà, le film commence par une séquence filmée par la police où on voit les policiers inciter Melissa Luccio à montrer comment elle a frappé sa fille. Alors, la pauvre fille, on voit bien qu'elle est à bout. Et puis, elle montre sur une poupée comment elle a frappé sa fille avec assez peu de conviction quand même. Hein. Mais on voit quand même que la police insiste lourdement et qu'elle ne lui laisse pas d'autre choix que de montrer un geste qu'à mon avis, elle n'a pas eu. En plus, le film est assez bien construit parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le film, elle interroge effectivement différents témoins, dont des médecins légistes qui, moi c'est ce qui me convainc, hein, qui prouvent que les blessures de la petite fille ne peuvent pas avoir été données par des coups. Et qu'effectivement, il y a d'autres passages dans le film où elle montre les lieux où ça s'est produit, où effectivement la petite fille en fait aurait chuté dans un escalier avec pour témoin les autres enfants de Melissa Luccio et le fait que ce qu'elle a eu ne pouvait pas être donné par des coups. C'est une pauvre femme qui a 14 gamins de plusieurs lits différents, qui est toxicomane, effectivement, elle n'a rien pour elle, quoi. Mais elle aime ses enfants. On voit ses enfants qui sont interrogés, on les voit dépités, pleurer devant la caméra. Bon, c'est un petit peu sensationnaliste, mais quand même, on les voit pleurer devant la caméra du sort qu'on a réservé à sa mère. Et à l'heure actuelle où on enregistre l'émission, effectivement, Sabrina Van Tassel a interpellé le président de la République qui n'a pas réagi. C'était avant quand même la déclaration de guerre en Ukraine, hein, et qui n'a pas réagi. J'ai cherché pour des articles. Il y a une auteure de BD qui s'est exprimée sur l'affaire parce qu'elle est contre la peine de mort, mais je n'ai pas pu lire l'article, c'est sur Ouest France, sur le site, et je ne suis pas abonné, donc l'article était réservé aux abonnés. Donc je ne sais pas où ça en est, apparemment, parce que sa condamnation est fixée au 27 avril. Enfin, son exécution est fixée au 27 avril, donc pour l'instant, on ne sait pas où en est l'affaire. Mais moi, le film me convainc qu'effectivement, c'est juste des gens qui voulaient avoir une place sociale des procureurs, des avocats, et qui se sont servis de cette affaire, de cette pauvre femme, pour pouvoir s'élever socialement, avoir des postes plus élevés dans leurs fonctions.
Alors, ce que le film démontre aussi, c'est que ce cas de figure, d'utiliser une affaire en particulier, en plus, pour rajouter au portrait de cette pauvre femme, c'est qu'elle est mexicaine. Donc c'est encore une tare en plus pour ces gens-là, hein, qui utilisent... puisqu'on est quand même au Texas, hein, c'est pas l'État le plus libéral du monde, hein, voilà, libéral au sens libéral premier du terme, je veux dire. Donc, je sais pas, la musique, je suis d'accord avec toi, hein, je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon. Après, bon, ça va, il y a pas trop de larmes non plus, je trouve, ça va, ça passe, ça me gêne pas plus que ça. Puis après, on peut le comprendre parce que bon, il y a des enfants. Parce que ces enfants n'étant pas majeurs et comme elle est condamnée pour avoir tué un enfant, hein, c'est ce qu'on lui reproche, elle ne peut pas avoir ses enfants en fait. Donc ses enfants ne l'ont pas vue du tout depuis le temps qu'elle est en prison. Il y a certains de ses enfants qui ne se rappellent même pas d'elle, puisqu'ils étaient trop petits. Donc évidemment, qu'ils sont très très touchés, que c'est très compliqué. Par contre, effectivement, ce que montre bien le documentaire, c'est là qu'il est très bien fait, parce qu'il démarre par les scènes d'interrogatoire. En fait, quand le documentaire démarre, si on regarde que les 5 premières minutes, elle est coupable. C'est plié, tu regardes 5 minutes, il y a la médecin légiste qui arrive derrière et tout, qui t'explique, voilà, c'est plié, elle est coupable, peut pas en être autrement, enfant couvert de bleu, tout ça et tout, parce que le documentaire ne nous épargne pas non plus de voir les photos de l'enfant, hein, ça rigole pas non plus. Hein. Et là, à la fin du film, c'est là que le film est vraiment bien construit, c'est-à-dire qu'elle met cet autre médecin légiste qui dit, mais non, ses blessures sont apparues post-mortem, c'est un phénomène normal, puisque quand elle est tombée, elle s'est cognée le crâne, et quand c'est ça qui l'a tuée d'ailleurs, c'est un trauma crânien qui l'a tuée, cette petite fille, hein, malheureusement. Et en fait, ça libère dans l'organisme des substances qui font que ça crée des bleus, il suffit de toucher, simplement, et le corps va tout de suite avoir un bleu, voire être noir à cet endroit-là. Donc tout ça, c'est intervenu post-mortem. Et effectivement, ses enfants disent qu'elle ne les a jamais frappés. Donc voilà, le documentaire, en tout cas, pour moi, est un documentaire qui mérite d'être vu. J'espère que la démarche de Sabrina Van Tassel va pouvoir aboutir positivement, parce que cette femme mérite un vrai procès, voilà, et puis de toute façon, on découvre, on sait, hein, a posteriori, qui a poussé la petite fille dans l'escalier. Enfin, je veux dire, c'est évoqué, il y a plusieurs témoins, tout ça. Donc, ces éléments-là étaient quand même présents et ont été refusés à l'époque par son avocat commis d'office qui n'a pas voulu les utiliser. Avocat qui, derrière, a une promotion pour intégrer le bureau du procureur. Donc, tout cela est vraiment horrible, parce que derrière, on parle de la vie d'une femme, quand même. Alors, effectivement, c'est une femme qui, pour eux, certainement, sa vie ne vaut pas grand-chose pour ces gens-là, voilà, qui, eux, pour leur carrière, se disent « on peut tuer quelqu'un, quoi, après tout, hein, directement ».
En plus, esthétiquement, le film est intéressant parce que bon, non seulement il montre le décor, le lieu où ça s'est produit, donc qui est un escalier délabré, qui n'est pas entretenu, mais aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on voit aussi les lieux où se passent les procès. Ce sont des lieux complètement déshumanisés, qui n'ont pas de fenêtres, qui sont quand même des blocs, comme des blocos. Et je trouve que là, on est bien dans la thématique de la déshumanisation de l'être humain, parce que la peine de mort, pour moi, c'est débarrasser tout être humain d'être un humain. Quoi. C'est ce que dit Clint Eastwood dans Impitoyable. Hein. Quand on tue quelqu'un, on retire tout ce qu'il a été et tout ce qu'il est. Quoi. Et je trouve que ce film, de ce côté-là, est très fort sur le plan esthétique, la façon dont elle amène les choses, cette progression qu'il y a dans cet univers très froid, très complètement déshumanisé. Et pour moi, c'est un très bon documentaire qui est pas seulement pour défendre une femme, mais aussi contre la peine de mort en général, parce que la peine de mort, être contre la peine de mort ne souffre pas d'exception.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine !